France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. C'était en 2001, à l'occasion d'une exposition, Paris-Barcelone, au Grand Palais à Paris, que Jean-Baptiste Parra avait rencontré, en Catalogne, le poète Jordi Pérez Cerdà, récemment disparu. La pratique de la langue française, le théâtre, la guerre, la résistance, et bien sûr la poésie. Rediffusion d'un Surpris par la nuit, proposé pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 2001.
Surpris par la nuit.
La nit em porta olors de menta. La florida dels segles deixat al pols del tard. Sento la teva absència que em pesa el braç. Tinc el cor ple d'olors i els llavis sense feina. Cap de nosaltres sap què ens portarà l'estiu. Si la flor clomptirà les seves prometes. La meva joventut s'engrapa al teu record.
La nuit apporte ses senteurs de menthe. J'ai le cœur plein d'odeurs et les lèvres inertes. Cette voix est celle de Jordi Pérez Cerdà, poète catalan, né en 1920 à Sayagouse, petite ville de Cerdagne, proche de la frontière espagnole. C'est là que nous l'avons rencontré, dans l'ancienne bergerie de son enfance. C'est sur ces terres qu'il est devenu écrivain et qu'il s'est engagé dans la résistance, il avait 20 ans. Au lendemain de la guerre, il a longtemps exercé le métier de boucher. On se souvient qu'en Grèce ancienne, Apollon, dieu de la poésie, était aussi le dieu boucher et sacrificateur, celui qui aiguise innombrables les coutelas de Delphes et instruit ses serviteurs en cet office, nous dit Aristophane. Jordi Pérez Cerdà est aujourd'hui reconnu comme l'une des voix majeures de la littérature catalane contemporaine. Aux confins de la poésie et de l'histoire, de la chair et du verbe, de la culture savante et de la culture populaire, il nous entraîne sur les chemins de sa vie.
Dans mon idée, j'ai eu une enfance heureuse. C'est certainement que j'ai vécu un moment heureux. J'étais bien dans ma famille. Et en réalité, il y a un drame au début de ma famille. Quand je suis né, mon frère, qui avait passé toutes les années de guerre lié à ma mère, qui s'était retiré chez ses parents, mon frère est mort d'une typhoïde. Mes parents n'étaient pas des catholiques fervents. Mon grand-père était franc-maçon, ma mère s'appelait Liberté, mais nous n'étions pas dans un pays où c'était une lutte présente. Et moi, j'avais besoin de l'église. J'étais toujours fourré à l'église. J'étais le meilleur enfant de chœur que le curé pouvait avoir. Et j'ai chanté à l'église très tôt, peut-être à 5 ans. Alors que la première fois qu'on m'avait présenté au curé, je lui ai chanté auprès de ma blonde qui fait bon dormir. Par conséquent, j'avais au moins 4 ans. Donc j'avais besoin de l'église et j'ai participé au chœur de chant très tôt. À 7 ans, le curé m'a mis à l'harmonium parce que la brave femme qui tenait l'harmonium à l'église était la postière, celle qui avait le chœur de chant. Et que, à certaines cérémonies, elle ne pouvait pas tenir l'harmonium. On m'avait donc mis à moi, qui ne savais pas les notes, parce que je suivais d'oreille le chant des gens qui chantaient.
À ce moment-là, vous parliez plutôt le catalan ou plutôt le français ?
Alors, je vais vous dire. on avait interdit aux enfants de parler le catalan. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu jamais une interdiction sur moi. Par contre, quand je suis allé au collège la première année, en 33 ou en 32, je me suis rendu compte qu'à la récréation, les élèves parlaient le catalan. Pour que je me sois rappelé que ça ait fait un choc en moi, il fallait qu'à Sayagouze, déjà, le problème ne se soit pas posé. Nous parlions le français. Parce que nous étions chefs-lieux de canton, parce qu'il y avait à peu près la moitié de la population qui était fonctionnaire, et nous trouvions tout à fait naturel de parler le français avec nos camarades. Le problème d'une séparation, d'une interdiction, ne s'était jamais posé. Par contre, le catalan était normal pour nous, dans la rue, et chez moi avec les bergers. En fait, dans ce pays, la brebis a disparu maintenant, presque. Mais c'était la brebis qui donnait la base d'un... On ne peut pas dire un régime, mais en fait c'est ça, un régime paysan qui tournait autour de la terre et qui tournait autour d'un calendrier, puisque la bête suit annuellement. En fait, nous serions presque bibliques dans ce cas-là, puisque la Bible, c'est en fait un calendrier de ce que fait l'individu avec ses animaux. Il y a de ça. Eh bien, c'est ce que nous vivions.
Quand avez-vous commencé à écrire? Et à ce moment-là, la question s'est-elle posée pour vous d'avoir à choisir entre le catalan et le français?
La première manifestation de mon écriture a été fin 40, c'est-à-dire lorsque la débâcle avait laissé la jeunesse dans une espèce de culpabilité que Vichy, ou plutôt l'armée de Vichy, ou la droite française, a essayé de faire retomber sur la population. C'est vous, à cause du Front populaire, qui êtes cause de la débâcle. Nous étions donc dans un état presque masochiste, où on se culpabilisait. Or, les jeunes, qu'est-ce que nous voulions faire? C'était l'année de mes 20 ans. Nous voulions rencontrer les filles. Nous étions dans un pays où les filles ne sortaient pas. J'ai eu l'idée de faire du théâtre. Mais on faisait des revues. Vous voyez, il y a eu des pays où on a gardé l'idée d'un théâtre. Par exemple, les Occitans ont gardé du 18e un théâtre lié au carnaval. Mais chez moi, il aurait pu y être, ce fait, parce que ensuite, j'ai reconstitué ce que j'avais vu à l'époque du carnaval, ici au village et dans d'autres villages, et en fait, c'était un théâtre d'une espèce de jurisprudence, de jugement qui se faisait du carnaval. Mais personne n'avait eu l'idée de l'écrire. Ces idées, ces réminiscences m'ont donné l'idée de leur faire des scénettes. J'ai fait 4 scénettes. Le village en a été immédiatement en révolution, parce que les gens ont cru qu'on allait se moquer d'eux. Et c'est vrai que nous prenions parfois des tics de l'un et de l'autre, parce que le théâtre, on ne fait pas de théâtre tant qu'on n'a pas l'idée de copier celui qui est en face. Il doit y avoir quand même l'idée de se retrouver dans un personnage qui est en face de vous. Il faut une image. Et ça, je ne pouvais le faire qu'en catalan. Nous étions dans l'incapacité, à ce moment-là, de dire une fable en français. C'était donc utilitaire, j'y revenais naturellement. Mais il est certain qu'en même temps, j'avais toute la littérature du monde qui m'était arrivée dans les mains.
Jordi Pérez Cerdà, le moment où s'affirme en vous votre vocation de poète, le moment où vous reconnaissez que ce sera là le chemin de votre vie, c'est aussi le moment où vous êtes en quelque sorte happé par l'histoire. 1940, c'est le franquisme de l'autre côté des Pyrénées, et en France, eh bien c'est la guerre, c'est l'occupation. Peut-on dire que vous êtes à la fois entré en poésie et en résistance?
Si on parle de l'époque, on pourrait le dire, à quelques années près. Dans la réalité, les deux choses n'étaient pas mêlées. Elles étaient mêlées dans la pratique de ma vie, mais elles ne l'étaient pas dans une pensée. Je n'ai pas eu de pensée continue. Parce que, n'ayant pas eu de formation, ou si j'ai eu une formation ayant été uniquement littéraire, du livre, de la lecture. Mais j'étais un homme de cœur, et chez moi, nous étions des gens qui déjà, en 36 ou en 35, nous étions déclarés du Front Populaire. Ce n'était pas si facile, malgré que toute la famille de ma mère était une famille à gauche et que les catholiques, à ce moment-là, une partie des catholiques boudait le magasin de ma grand-mère ou le magasin de mes parents. Donc il y avait quand même un clivage. Il n'était pas net comme il est devenu ensuite politiquement. Mais mon père, par son métier, nous n'étions pas comptés comme une famille très riche, des plus riches, parce que mon père avait peu de terres. Et ça compte dans un pays paysan. Mais il avait des amis qui étaient c'était plutôt des conservateurs, ou il y avait même des royalistes, parce que le Roussillon, lui, se déclarait royaliste. Donc, se dire du Front Populaire, c'était quand même marqué un choix. Très tôt, il y a eu la guerre d'Espagne.
Pendant plusieurs années, vous avez exercé le métier de boucher dans votre village natal, Sayagouze. Je sais qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, on assiste à une floraison de cafés philosophiques. Or, certains de vos amis m'ont dit que votre boucherie était en quelque sorte un précurseur en ce domaine, puisqu'on y parlait bien souvent, sinon de philosophie, en tout cas de poésie. Alors, une boucherie poétique, c'est quand même original, ça vaut la peine qu'on en parle.
Oui. Je ne peux pas dire que j'ai eu un public touché par la poésie qui venait m'acheter la viande. Mais c'était quand même, en Cerdagne, un public qui m'apportait, justement, des valeurs linguistiques. Chaque village, chaque famille a gardé certains traits d'une langue. Une langue vivante, par exemple, tous les 15 kilomètres à peu près, a suffisamment de diversité par rapport à l'autre pour que ça se ressente, pour que ça se remarque. Chaque individu a cette même diversité en lui, mais ça se remarque moins. Il faut avoir un long cheminement avec une personne pour que soudain, vous trouviez un mot que vous n'aviez pas entendu ou que votre oreille n'avait pas retenu chez l'autre. Je l'ai retrouvé chez ma mère. J'ai eu une chance de trouver des femmes, car le boucher est un homme à femmes. Le boucher a affaire aux femmes. Et les femmes, avec le boucher, n'ont pas les mêmes façons de se tenir qu'avec d'autres métiers. Par exemple, vous prendrez une boîte de sardines, vous ne discuterez pas. Mais un morceau de viande, vous discuterez parce que le mari aime sa viande ou cuite ou non, ou tel morceau ou tel autre. À un moment donné, j'aurais pu vous dire, par exemple, en parlant de moutons, tous les noms des familles de Sayagouze qui voulaient cette côtelette précisément et non pas celle d'à côté. Ça paraît curieux. Ça prouve comment la moindre chose dans la vie est chargée de nuances et de mouvements, parce que la diversité est un mouvement. C'était la vie de la langue. Ça, je l'ai vécu. J'avais donc autour de moi des villages qui n'étaient purement paysans. Et là, je retrouvais l'instinctivité. Et donc, cette instinctivité était porteuse, justement, des réelles valeurs de la langue intérieurement, et même des sentiments, déjà. J'ai eu une chance énorme à ce sujet. Thank you.
nocturne. Nit negra quan l'esma d'unes cases adormides, per velles dolces. Les façanes clouen els ulls de les finestres amb un perfum d'intimitat i la llum d'oli del silenci. Al davant meu hi ha un poble, perfecció d'un miracle...
Nocturne. Nuit noire puisant l'âme des maisons endormies. Paupières douces, les murs ferment les yeux des fenêtres sur un parfum d'intimité et l'huile lumineuse du silence. Devant moi repose un village, miracle parfait. Blotti entre quatre chemins et une rivière que la lune tient captive dans les ombres comme des larmes d'argent. Les jardins habitent la froideur de la nuit, et c'est à peine si le peigne du vent fait frémir une feuille du geste inutile de lisser un cheveu. Les quatre chevaux tirant mes pensées piétinent mon cœur et font jaillir la douleur à mes lèvres, pierre à feu qui éclate. Et dans l'instant, l'horizon sombre s'éclaire au lent passage d'une étoile égarée à la recherche de sa voie lactée.
Jordi Pérez-Cerda, il nous faut parler de votre poésie. Ce que l'on remarque d'emblée dans votre poésie, c'est la présence de la nature. Alors il ne s'agit pas d'une approche descriptive. Je dirais qu'on assiste plutôt à la saisie du monde comme un tout organique où l'humain, le végétal, le minéral sont perçus dans leur rapport, dans ce qui fait lien entre eux. Et on dirait que la poésie est ce qui rend visible une circulation des énergies entre tous ces éléments.
Je souscris tout à fait à ce que vous dites. Vous dites beaucoup mieux que moi-même, je ne saurais l'expliquer. Je crois qu'il y a... Le fait peut-être que mon père était berger, et d'une famille de bergers, propriétaires, pas de... C'était le troupeau représentait leur vie. Leur vie avait toute la richesse que ça peut avoir de relations, de commerce et autres. On ne peut pas s'y... faut pas s'y tromper. Mais ça reste une vie très proche de l'animal et très proche de la terre. Et je crois que ce côté primitif, qui est certainement un primitivisme, me portait à voir effectivement le monde que j'avais devant moi, d'abord dans son agglutinement, ce qu'il tenait. Et que mon travail a été de dégager dans cette perception, certains pourraient dire globale, elle n'est pas globale en cachant les choses, de trouver les cheminements peut-être, ou je crois que c'est vous-même qui a... À une certaine occasion, on avait parlé d'un couteau chinois qui pénétrait les nervures du corps mort, si l'on peut dire, qui est devant, mais qui est aussi un corps qui a été vivant, et qui est tout près d'être vivant. Eh bien, c'est un peu ça. Une fois, un de mes amis avait dit que dans mon langage, on retrouvait des mots du sang, justement. Et il disait, je ne crois pas que ce soit le métier de Cerda qui apporte ces mots. Ce n'était pas mon métier, mais le métier m'aidait à les toucher quand même, à toucher ce qui était vivant et ce besoin de passer à travers des interstices qu'on ne soupçonne pas parfois et que l'expérience nous oblige à faire. Je crois que j'ai été obligé de faire ce travail.
Cerda, pour moi, c'est quelqu'un de massif, véritablement les pieds sur le sol cerdant. Et les souvenirs qui me viennent, ce sont évidemment les promenades qu'on a pu faire dans la campagne cerdane, et notamment dans les fermes de Cerdagne, et également, évidemment, les relations qu'il avait constamment ouvertes. tête, car c'est quelqu'un qui connaissait tout le monde et à qui tout le monde parlait et avec lesquels il entretenait absolument des relations amicales, quotidiennes. Donc c'est à la fois cet enracinement, ce caractère véritablement qui fait un avec la Cerdagne, avec la terre cerdane. Et de l'autre côté, la disponibilité sociale, l'ouverture sociale.
Le souvenir, le premier souvenir que j'ai de Jordi Peyresserda est aussi lié à la Cerdagne. J'ai vécu en Cerdagne enfant et je l'ai vu pour la première fois en 1949 à Sayagouze. Et j'ai été frappée par la personne, le personnage attaché au sol, une présence bonne, généreuse, une certaine qualité de silence et en même temps une facilité extraordinaire pour nouer le dialogue avec quiconque. Disons, j'ai été éblouie et en somme j'ai eu la révélation de la poésie en voyant Jordi Peyresserda. Il y avait également, d'autre part, une autre raison de s'émouvoir, c'est que dans cette terre qui parlait catalan, dans cette petite terre, le petit pays, comme il le dit lui-même, disons que le monde était un monde encore fermé. Il y avait très peu de communication, bien sûr, pas du tout avec l'Espagne. Et on le comprend bien, à ce moment-là, l'Espagne franquiste était fermée. Il y avait aussi des communications également difficiles avec le reste de la France. Et en ce petit monde, parfois un peu replié sur lui-même, où les hivers étaient très longs, comme il le dit dans ses poèmes, il y avait là une personnalité merveilleuse qui était ouverte à l'intelligence, à la beauté de la nature également, et aux livres, à la poésie qu'il avait découverte.
Marie-Claire Zimmermann, 1949, c'est au sortir de la guerre. Absolument. Est-ce qu'il vous parlait de la résistance ?
Alors, non. Disons, à ce moment-là, j'étais enfant. Disons qu'il a une sorte de pudeur face à ce moment-là, parce que justement, il a été un héros, et qu'il ne le dit jamais, qu'il ne l'a jamais dit, mais nous, nous le savions. Alors, il y avait là, et il y a toujours, de la part des Cerdans, un respect extraordinaire, un respect en même temps silencieux, face à ce qu'il a été, à ce qu'il dit, disons, de la collectivité, de ces groupes qui passaient la nuit par l'école et qui conduisaient des Juifs en Espagne. Alors, je crois que cet engagement si jeune, cet engagement, disons, dangereux, il fait dans un poème allusion aux traces de sang dans la neige vers le col. Disons que cet engagement-là, je crois, a beaucoup compté, bien entendu, pour sa poésie, mais aussi pour ce public qui l'a lu, pour ces gens de Cerdagne qui continuent à se souvenir et à répéter qu'il a été un résistant.
Est-ce que vous pourriez nous parler des années de guerre ? Comment les avez-vous vécues ? Comment êtes-vous entré dans la résistance ?
Là, il faut expliquer ce qu'est la Cerdagne, ce pays. Nous sommes un petit triangle qui avance avec les montagnes et qui avance sur la Catalogne, mais c'était l'Espagne. Nous sommes un pays qui, jusqu'en 1835-36, dépendait encore au point de vue religieux de l'épiscopat d'Urgel, qui était un des épiscopats les plus réactionnaires que l'Espagne ait possédé, au point que pendant les luttes carlistes, il s'était déclaré indépendant. Nous sommes un petit pays. Par exemple, le Parti communiste s'était créé certainement, je ne crois pas avant 34-35, par quelques cheminots, lorsque la gare de la tour de Carol nous a fait permis de communiquer avec Perpignan. Le Parti Socialiste avait été amené par un garçon d'une famille nobiliaire d'ici, mais qui voulait faire de la politique et qui venait de dehors. Il avait vécu à Barcelone. Cet homme, qui était en fait un riche héritier, a mis un champ à la disposition des paysans, leur a donné l'idée de former une coopérative laitière, ça a été la première, et il a voulu se présenter contre ce qu'on peut appeler la droite du pays. Cet homme, c'était Yedos. La droite de ce pays, à ce moment-là, n'avait déjà plus une base réellement dans l'économie. Vous voyez ? Donc il y avait déjà un repliement de ceux qui réellement avaient le pouvoir terrien. Mais en même temps, c'était lié, et Yedo était lié, à ce qu'est une frontière. Une frontière, depuis le début, est un pays où les deux pays qui sont en face l'un de l'autre doivent savoir ce qui se passe chez l'autre. Nous sommes dans un pays avec un tissu à la fois de contrebande et à la fois d'espionnage, si l'espionnage se rapporte à raconter l'état d'esprit. Nous ne sommes pas encore dans les James Bond entre l'Amérique et la Russie. Nous sommes dans une frontière. Yedov faisait partie du système des services secrets. Je peux en parler maintenant parce que, en parlant de ma résistance, nous allons tomber dans les services secrets. Nous allons y tomber comme dans une prairie, vous tombez sur de l'herbe. C'est-à-dire, c'est ça qui pousse. Et je me souviens d'avoir dit qu'une des choses que la résistance m'avait données, c'est qu'elle m'avait permis d'entrer dans l'histoire. Je ne parle pas moi maintenant. Le mot d'être vivant dans ce qui se passe. Nous avons commencé avec un ami qui était un étudiant, qui venait en vacances à Sayagouz et qui habitait la Tunisie. Le père à l'arsenal, la mère institutrice. C'est un garçon qui avait 2 ans de moins que moi. Mais le café était le lieu où nous nous retrouvions. Et à partir de 1942, je suis rentré en mai du service obligatoire que nous faisions dans les chantiers. Il y avait des gens qui passaient, qui essayaient de voir où qu'ils voulaient aller en Espagne, ou qui venaient voir comment ils pourraient organiser leur fuite en Espagne. L'hôtel était le lieu où ils descendaient.
Quels étaient ces gens ?
Des individus que nous ne connaissions pas. C'était un individu passé à l'hôtel. Or, Maurice vivait à l'hôtel. Ses parents l'avaient laissé ici, parce qu'avec la guerre, ils ont pensé qu'il ne pourrait pas parfaire ses études. Il devait passer son bac. C'est pas Maurice. Maurice, le premier, s'est engagé avec des gens, et il a su qu'il voulait passer. Nous les avons aidés. En même temps, on commençait à parler. On me disait qu'on avait vu des gens passer, des groupes passer dans la montagne. Il faut savoir que à partir de la montagne d'Oseja, jusqu'à 30 km d'ici, la dernière vallée, la vallée de Nières, qui est presque à Villefranche, toutes nos vallées à nous convergent vers un point unique qui est une ratière qui s'appelle Nuria. C'est l'imbrication, ça, des montagnes. Il faut le vivre pour le comprendre. Et tout ça, ça se disait. Mais nous n'arrivions pas, en tout cas moi, je n'arrivais pas à avoir un contact. Ces contacts se sont faits par Maurice à l'hôtel. Nous en avons fait à peu près 4. Puis quand nous avons su quand même où il se perdait, où il revenait en France, nous avons pensé qu'il fallait aller plus loin. Nous ne faisions que les mettre en face de la frontière, c'est-à-dire en montagne. Parce que, évidemment, la frontière dans la plaine est facile, mais elle était surveillée. Et surtout, il y avait, de l'autre côté, la police espagnole qui les renvoyait. Les Allemands n'étaient pas encore arrivés. Et je sais qu'une fois, nous voulions aller les porter très loin, et il nous fallait du manger pour toute la journée. C'était un groupe, je ne sais plus combien ils étaient, 3 ou 4. Et j'étais allé chercher des pommes. Donc c'était déjà fin septembre, puisqu'il y avait déjà une première cueillette de pommes que nous avions montée au grenier. Et nous leur avons donné des pommes. Les gens n'arrivent pas à comprendre actuellement que le pouvoir vivre, pouvoir manger à cette époque-là était un problème. Même pour nous qui étions paysans et qui avions des avantages. Ça a été le début. Et puis voilà que le 1er octobre, un nouvel instituteur est arrivé à Sayagouz. Il nous a dit, chez moi, à Rivesaltes, le percepteur fait passer les gens. Dans un village, on voit tout. Un village, c'est un miroir. Vous vous baladez dans un miroir. Un miroir fait de tous les yeux des habitants. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Maurice? Il nous a semblé que c'était la manne qui descendait. Je suis allé le trouver. Alors là, on a une idée. Je l'écris. Elle était folle. Elle était folle. Nous faisions faire à ces gens-là 100 kilomètres livrés à eux-mêmes. Il y avait un autobus qui devait les mener, qui était l'autobus qui allait à Quillan. Mais il devait les déposer 15 kilomètres avant à Axat. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est Axat dans la vallée de l'Aude. À Axat, il y avait un autobus qui les apportait dans un petit canton à 30 kilomètres qui était Kérigut. C'est le dernier canton imbriqué dans les Pyrénées-Orientales. Par contre, de Kérigut à Puy-Valador, c'était le vide, c'était une forêt. Il fallait la faire à pied. Il fallait la faire à pied. À Puy-Valador, il y avait un autobus qui faisait la liaison du Cap-Cyr avec Mont-Louis, avec le train. Et puis, nous allions les rechercher au-dessus de Mont-Louis. Au-dessus de Mont-Louis. Entre-temps, les Allemands étaient arrivés chez nous. Ce qui était déjà une zone de surveillance plus forte de la part de Pétain est devenue une zone interdite. Donc, nous allions les chercher à Mont-Louis et nous les amenions à pied à un réfugié espagnol qui avait été berger de mon père, que j'étais allé trouver à la montagne pour essayer d'échapper à la ratière des vallées espagnoles, disons, elles sont catalanes, mais enfin, c'est l'Espagne. Et ce berger m'avait dit, il faut aller passer tout à fait à l'extrême, à l'ouest, de ce grand massif qui est le massif du Puigmal, finalement, entre le Canigou et le Puigmal, et de là, les amener dans deux ou trois vallées qui permettent d'arriver à Ripoll. C'est une série de châtières, il ne faut pas se tromper. Toutes les vallées sont une succession de ratières à 700 mètres, à 800 mètres. On se trouve bloqué devant des chambres presque fermées. Le premier voyage, c'était des Juifs. Des Juifs dont nous n'avons jamais pu entrer en contact de langage avec eux. Par la suite, oui. Par la suite, j'avais même trouvé à Rivesalt une jeune femme juive qui se faisait appeler Roberte. Pour le dernier groupe, c'était des aviateurs, notamment ceux, mais je ne l'ai su qu'après, qui avaient fait partie du groupe Normandie-Niémen. C'était des groupes de gens qui venaient. C'était la liaison, en fait, entre l'Algérie, le mouvement girondiste d'Algérie et la France. Mais c'était pour la plupart les services secrets en plein, et c'était des baroudeurs de combat. C'était des groupes qui venaient exercer soit des batailles, soit des sabotages. Je veux dire, c'était le gros du travail. Hein. Et ça a commencé en janvier, peut-être en décembre 43, en tout cas en janvier sûr, mais dès le départ alors, en janvier, et ça a tenu jusqu'à la libération. Vers la fin, Maz avait compté qu'il avait passé 350 personnes. Moi, je n'ai jamais compté, je n'ai jamais voulu savoir ce que je faisais. Nous vivions avec la peur que la police nous prenne et que nous puissions pas tenir notre silence. On vivait avec cette peur. J'avais pris un revolver la première fois où j'ai eu à trouver un groupe de personnes que je devais prendre en charge pour leur faire passer la frontière. Ce revolver, nous étions deux copains, c'est lui qui me l'avait procuré. Et je me suis demandé qu'est-ce que je ferais de ce revolver. En réfléchissant, j'ai pensé que c'était ma peur, qu'il me servait à dominer ma peur. Mais s'il servait à ça, je n'avais pas besoin de revolver. Je n'avais qu'à réfléchir sur ce qu'était ma peur, et me remettre en condition de passer outre à cette peur.
Qu'est-ce que cette résistance signifie pour vous ? Est-ce que c'est aujourd'hui, avec la distance, le recul du temps, un épisode de l'histoire, un épisode de votre vie, ou est-ce que ça a une valeur qui demeure et qui vous a finalement nourri au fil des années ?
D'abord, je dois dire, puisque j'ai la possibilité, notre filière est restée jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Mais à la fin, nous étions un des seuls. Si bien que toutes les filières qui dépendaient de Toulouse se rabattaient sur nous. Nous n'en pouvions plus. Nous avions trois groupes qui faisaient le passage. C'est énorme. Or, il ne s'agissait pas d'un passage, il s'agissait d'un passage France-Espagne et d'un passage Espagne-France, ce qui veut dire deux. Donc, nous devions les assurer. Nos hommes les ont assurés. Nos hommes les ont assurés. D'en être heureux, je crois que tout à ce moment-là, l'important, c'était de gagner la guerre. C'était de faire perdre Hitler. Mais nous savions que les gens pour qui nous travaillons n'étaient pas des gens de notre que nous aurions aimés. Individuellement, l'individu est tout à fait une autre chose. Mais les idées, nous étions anti-gaullistes. J'aurais préféré être gaulliste que de travailler avec Giraud. Mais en réalité, c'était la même chose. C'était des luttes intestines de la bourgeoisie du capitalisme français. Moi, ma réhabilitation, c'est que j'ai décidé d'entrer au Parti communiste. Nous avons fait un travail que nous devions faire. Nous l'avons fait en sachant qu'il ne serait pas reconnu. Il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. Sauf par le second réseau qui était du courrier, qui s'appelle le réseau ACAC, et où était liée l'Université de Toulouse et les grands hommes de l'Université de Toulouse. Ça peut se dire. Je ne peux pas expliquer maintenant autre chose.
Món, trobo fraternal l'herba i el forment, la dona de poble, l'obrer de la fàbrica, sóc clos castellat d'un cop de garrot de la policia. Tinc damunt del front la marca de sang, grana tardana de sembres del 40. Em recorda la derrota amb la boca tapava els meus
fills. J'ai souffert pour penser que j'étais l'un des tiens, que mon dos portait une charge d'homme. Le jour où la carcasse se défera des chairs, revenant à la terre, avec ma part de chaud, au rythme de la vie, j'entrerai dans la danse à la face des pierres, moulée dans la glaise. Monde, je me sens frère de l'herbe et du froment, de la femme du peuple, de l'ouvrier d'usine. La matraque de la police a fendu ma tête. Je suis fiché par le pouvoir à l'encre rouge. J'ai sur le front la marque du sang, graines tard germées des semeurs de 40. Je me souviens, la déroute bâillonnait ma bouche de 20 ans. Je cherchais la vie, fouillant son feuillage sans parvenir au cœur. Mes mains, accoucheuse d'aube, s'empêtrait dans le crépuscule d'un ordre dont nous étions pétris. Je me souviens, l'Espagne achevait d'expirer, exsangue. De la fosse creusée par la France, remontait son corps atrocement présent. Étalant la bannière de ses plaies sur une hampe de cadavres, un peuple s'enfonçait dans l'enfer du cachot. Je me souviens, c'était l'an 40. Le monde s'épiait dans le petit matin, fente métallique d'une guillotine, murée dans le mensonge de l'institution. Mon pays s'y trouvait, tête basse, comme un troupeau face à la bétaillère. Chevaux, 8, hommes, 40. Je me souviens, je cherchais la vie. Je sentais son feuillage, mais sans trouver le cœur. Alors, dans la peur sidérale qui assommait l'arbre, la sève profonde tente de cheminer. Alors commencèrent au secret des prairies les pas détournant le sillage nocturne de l'herbe. Alors, dans la bouche de cendre frappée d'un arc électrique, la langue consumée s'essaya au mot du silence. Alors, sous la peau de la patrie, crevée comme un tambour, des veines jeunes faufilèrent la trame du sang neuf. Alors la montagne dressa ses tours de volonté. Alors une ville s'édifia sur l'autre ville. Alors le visage se doubla d'un visage de nuit. Alors la peau de chaque ouvrier habilla un soldat. Moi, j'entrais dans l'arbre comme un oiseau dans le feuillage. Et je sentis la force de ses branches dans mes bras et dans mon cœur. Je sentis la sève se mêlant à mon sang. Je tins la vie dans le nid chaud de mes mains. La vie avait le visage du peuple et de son combat.
Vous avez 25 ans à la Libération et pendant 30 ans de l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne va vivre sous la botte franquiste. Qu'est-ce que cela a signifié pour vous qui viviez juste de l'autre côté de la frontière? Qu'est-ce que cela a signifié pour l'homme et pour le poète catalan que vous êtes?
La première impression, la littérature n'y entre pas. Je ne la connaissais pas. Nous ignorions absolument même qu'une littérature dans cette langue orale que nous parlions puisse exister. C'était de l'ignorance, parce qu'en Roussillon, il y avait quand même eu, depuis Mistral, disons, un embryon de renouveau. Non seulement un embryon, mais il y avait eu deux poètes qui ont une réelle valeur littéraire. Les deux poètes étaient en même temps professeurs de castillan dans une université. C'est assez curieux. Ils sont d'une part Amade, Jean Amade, dont le fils a fait les paroles de Bécot, par exemple en français, Louis Amade. L'autre était Joseph-Sébastien Pons, un bien plus grand poète qu'Amade. Ils se tiennent à 10 ans d'existence, et ces 10 ans sont des siècles pour la reprise d'une littérature. On est obligé de faire à ce moment-là, en quelques années, simplement par la présence de quelques individus, un chemin que la société met en général un siècle ou deux parfois à faire. Donc j'ignorais même cela. L'arrivée du franquisme a été ressentie sur le plan politique et sur le plan du sentiment et sur le plan des amitiés, puisque nous avions d'une manière naturelle à Puigcerdà, qui représente le centre, la ville, le marché. Le marché réunissait tous les gens de Cerdagne. Ça a été coupé.
Tous les gens de Cerdagne des deux côtés de la frontière. Donc la communauté n'était pas distendue. Qu'est-ce qui a changé avec le franquisme?
Avec le franquisme, ça a été la coupure absolue. Ils nous ignoraient et nous avons été obligés de les ignorer. Mon contact littéraire, qui est venu après, le besoin, si je peux dire, de retrouver à travers le catalan des textes écrits et ceux qui avaient été écrits en catalan, s'est fait péniblement. Mais ça s'est fait d'abord avec des gens d'âge qui avaient été élevés en Catalogne, des bourgeois en général, la bourgeoisie, ou des gens qui touchaient de près la bourgeoisie, qui avaient recherché depuis 1850 à peu près, dans la littérature française, un aliment à leur désir de liberté, à leur désir de changement. Lorsque quelques années après, je me suis trouvé devant la génération des jeunes qui, elles, avaient été enseignées par le fascisme, et c'était un fascisme clérical, on ne peut pas le nier, ça. Ces gens-là étaient coupés absolument de cette espèce de fenêtre que peut être une ouverture sur un autre pays. Et je parle de la France non pas parce que je veux faire du nationalisme français, ce n'est pas ça. La Catalogne, il ne faut pas oublier que la Catalogne est quand même le fruit de la marche d'Espagne, de Charlemagne. C'est donc qu'il y a un trait d'union qui ne s'efface pas toujours facilement. Il faut voir de près ce que représente le fascisme sur une population. Elle enferme d'abord les individus, chacun sur lui-même. Il n'y a plus de vie de société. Il y a une peur qui s'installe, un doute de l'autre. On manque de confiance les uns des autres. Il y a ensuite l'enseignement qui, lui, dans la mesure où il est un enseignement volontairement coupé de la réalité générale pour donner une, disons, une apparence de vérité de la vie qu'il vivait, ça ferme l'individu alors sur le monde, sur les possibilités qu'il y a pour un individu de penser même. Ça, nous l'avons touché de près, je l'ai touché de près. Mais personnellement, je peux dire qu'étant jeune, c'est chez les jeunes de Barcelone que j'ai trouvé un sentiment le plus proche de ce que je pouvais rechercher, car le jeune veut s'épanouir, il veut trouver la liberté. Il ne sait pas comment le faire, mais on le sent dans son écriture. Ça, je n'ai pu le faire que vers 55, peut-être même 58, où sont apparus des premières, on appelait ça des anthologies universitaires. C'était des petits cahiers que les étudiants réussissaient à faire passer sous le couvert du nom de l'université. Ça a été le renouveau de la poésie pour les Catalans.
Donc, si je comprends bien, Jordi Pérez Cerdà, l'accès à la culture, à la littérature, à la poésie catalane, dans votre cas, ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu, qui vous a été donné, c'est quelque chose qui a été conquis, et je dirais même conquis de haute lutte.
Oui, si par haute lutte, on comprend une lutte profonde. J'ai dû puiser intérieurement, j'ai dû revenir à une langue pratiquement, une langue de l'oralité, presque alphabétique. Il a fallu que je retrouve dans simplement quelques mots l'essence de la poésie, si on peut dire qu'il y avait dans mon oralité.
Vous êtes quatre épis, montagne, quatre épis de verre taillés dans le cristal de l'air. Vous êtes quatre pommes, montagne, fruits gorgés d'eau, nés pour les lèvres de la plaine. Vous êtes des taureaux, montagne, taureaux levant le mufle après leur sieste. L'ombre d'un rêve reste au bleu de vos yeux, et les cornes redoutables aiguillonnent le ciel de leur présence éblouissante. Taureaux, luisants et sombres, pleins d'un désir rageur de pâture sauvage. Moi, à la pointe de l'aube, ni laboureur ni gardien, à moi-même étranger, je recueille au creux de mes mains la rosée de la nuit et la présente à vos mufles froids et noir comme une offrande d'amitié.
Lionel Richard, il y a chez Jordi Pérez Cerdà l'engagement poétique, il y a l'engagement politique. Comment voyez-vous l'articulation entre les deux ?
Je pense que les deux se superposent. Parce qu'en réalité, la culture acquise par Jordi Pérez Cerdà, c'est une culture militante d'abord. C'est par la résistance. C'est par ensuite le militantisme politique, la lecture des journaux politiques, des revues de l'époque, qui l'a acquis toute une culture universelle. Au fond, c'est parce qu'il est tombé sur les lettres françaises, par exemple, après la guerre, qu'il a pu lire très tôt Neruda. Donc, il n'était pas vraiment enfermé dans ce qui était étroit à l'époque en Roussillon. Parce que le problème, c'est de voir un peu les choses telles qu'elles étaient juste après la guerre. Se risquer à parler de littérature catalane, c'était déjà tomber dans un traquenard, d'une certaine manière. Parce que d'un côté, c'était l'Espagne avec l'interdiction du catalan, et de l'autre côté, c'était le folklorisme. Et la plupart des poètes qui écrivaient en catalan étaient du côté, pour schématiser un peu, du côté du félibrige. Du côté, donc, de la tradition maurassienne, d'une certaine manière. Si l'on excepte Joseph-Sébastien Pons, on tombe évidemment dans une littérature mineure en Roussillon. Je crois qu'il y a la nécessité d'une reconquête à l'époque où Jordi Peyresserda écrit. Le français, ça aurait dû être la langue dans laquelle il écrit. Au fond, autour de lui, il entendait parler un catalan, mais un catalan vraiment très abâtardi et rudimentaire. Écrire dans ce catalan-là, c'était pratiquement impossible. Donc il y a eu une reconquête nécessaire de la langue pour lui qui est passée par deux voies. La première voie, ça a été évidemment de reconquérir une histoire à travers les contes, à travers les chansons populaires. Et notamment les chansons populaires, c'était très difficile, aller de ferme en ferme, essayer de recueillir les paroles et la musique de ces chants. Ils ont été d'ailleurs, pour quelques-uns, publiés dans un livre du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc pour lui, le catalan, c'était quelque chose de parlé, de vivant, mais qui ne pouvait pas passer par l'écrit, parce que la tradition littéraire avait été complètement abâtardie. Et il y a une deuxième reconquête, qui est celle justement d'un catalan littéraire. Moi, je me souviens, il y a une image toujours qui me frappe, si vous voulez, c'est que sur sa table, il y avait toujours des tas de dictionnaires.
Pendant de longues années, de l'autre côté de la frontière, la culture catalane était en quelque sorte étouffée par le régime franquiste. Pourriez-vous évoquer ce que fut dans ces grandes lignes le destin de cette culture catalane au XXe siècle, Marie-Claire Zimmermann?
Très souvent, les Français ignorent ce qui s'est réellement passé en Catalogne sous le franquisme. Pendant le franquisme, le catalan a été interdit, la langue était interdite. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle était publiquement et ajouter la loi en privé. Ce qui est véritablement une aberration, ce qui prouve enfin l'immense sottise du franquisme. La vie en Catalogne, sous le franquisme, surtout pendant les premières années, a été extrêmement douloureuse. On le voit quand on parle avec des personnes qui ont vécu cette époque-là. Beaucoup de gens, naturellement, n'ont pas pu véritablement apprendre le catalan, puisque le catalan était absolument interdit dans les écoles. Et il a fallu l'apprendre à la maison, uniquement par le dialogue avec les proches, ou bien de manière extrêmement secrète. Et là, on peut mesurer le courage des Catalans, leur ténacité, leur volonté de sauver la langue. Des professeurs qui étaient destitués et qui n'avaient plus de métier, qui très souvent vivaient de très peu, enfin, de l'aide de leurs proches, ces professeurs donnaient des cours dans leur salle à manger. Ils recevaient des adolescents, des adultes, et de cette façon-là, une certaine langue littéraire, enfin une certaine culture catalane a pu se transmettre. Mais pour beaucoup de gens, l'école a été espagnole. Et l'on a vu dans les années 45-50, c'est le cas du très grand poète Pere Gimferrer, on a vu des poètes qui ont commencé à écrire en espagnol, puisque leur scolarité avait été uniquement espagnole. Ensuite, ils se sont mis à écrire en catalan, mais c'était là aussi une tâche très difficile, puisqu'ils ne l'avaient pas véritablement appris, ils ne savaient pas l'écrire. Alors il y a eu là, je dirais, enfin pendant des années, un obscurcissement, un silence pesant, sur lequel on ne cessera jamais de revenir. Pensons au poème d'Espriu, au grand Salvador Espriu, qui évoque ces temps de silence dans le Cementiri de Silene, par exemple, en 1946, et où il a l'impression que la langue est morte, qu'elle va être tuée, et qu'il faut un labeur poétique extraordinaire pour la faire survivre.
La Catalogne a ressenti le régime franquiste comme une guerre qui était faite contre elle. C'était à la fois une guerre civile, c'est-à-dire une classe possédante contre la classe ouvrière, en gros, ou la classe moyenne qui s'était manifestée pour une république qui, d'une manière déclarée, avait œuvré en fonction des lois républicaines. La Catalogne l'a ressenti d'une manière, je ne peux pas dire globale, parce que la Catalogne a échappé à ce moment-là quand même à un nationalisme total. Les classes existaient, et la classe bourgeoise, de la grande bourgeoisie, avait opté pour Franco. Par contre, comme dans Franco il y avait un sentiment anti-catalan, cette bourgeoisie le plus souvent est partie en Suisse, où c'est neutralisé, si l'on peut dire, à l'extérieur. Il y a des paroles même de Franco. La Catalogne est un pays malade et nous allons le traiter en tant que malade. Ça a été l'interdiction de la langue catalane, même parlée dans la rue. Les Catalans, je veux dire les bourgeois catalans, qui se trouvaient devant le pouvoir castillan, ou même devant simplement des individus castillans dans la rue qui avaient un sentiment anti-catalan, s'entendaient dire « S'il vous plaît, parlez-moi chrétien ». C'était le mot. « Hable usted cristiano ». L'écriture a été bannie, les journaux catalans ont été bannis, et pendant quelques années, il n'y a rien eu. Il y a eu le silence, absolument. C'était une dictature réelle. Puis, petit à petit, toujours les grandes classes, la classe des bourgeois, a essayé de défendre la langue sur un terrain du passé. C'est-à-dire rééditer, parfois, deux ou trois par an, quelques classiques de la langue.
El ejército del Ebro rumba la rumba la rumbam bam. El ejército del Ebro rumba la rumbam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, buena paliza les dio, ay Carmela.
Avec vous, Jordi Pérez-Cerda, il faut entrecroiser les fils de la poésie et les fils de l'histoire. Et je voudrais que nous en venions maintenant à votre engagement politique. Vous êtes communiste, qu'est-ce que ce mot a signifié pour vous ? Son sens est-il resté inchangé au fil des années, ou bien s'est-il modifié ?
Il n'y a rien qui ne se modifie au cours des années. Il y a des choses que nous abandonnons, des choses de nouvelles richesses, parfois nous enrichissons d'autres sentiments. En fait, la politique, c'est une recherche de la défense de l'individu, de la défense du groupe dans lequel il se trouve, on ne peut pas l'oublier. Et c'est aussi un enrichissement de... Parce qu'on s'ouvre à ce moment-là, petit à petit, sur un monde beaucoup, beaucoup plus grand. Mon adhésion politique tient surtout au pays où je vis. Et c'était un canton assez arriéré, il faut le dire, un canton purement paysan, vers la frontière. La frontière nous apportait une population de fonctionnaires. En même temps, notre climat avait amené chez nous des malades, les premiers sanatoria, par exemple. Donc, c'était en même temps une population assez fermée, parce que même les fonctionnaires, même ces malades, surtout, étaient occupés chacun à son propre problème. Une frontière est un mur. Un des points que j'ai voulu défendre toujours, c'est que garder la frontière telle qu'elle était, et là je parle pas seulement parce qu'elle était fasciste, toutes les frontières sont un mur. C'est un mur. Il n'est pas normal de demander à un homme de vivre avec une moitié de sa personne qui ne peut pas se développer dans un cercle. Je prends des formes géométriques, mais je crois que ça s'explique. Donc, ce mur faisait qu'il n'y avait pas de mouvement des idées, ou que le mouvement des idées se faisait très peu ici. Il y a toujours chez nous ce que vous appelez l'utopie, et qui est une projection un peu d'idéal, de perfection, disons. Je ne sais pas si c'est les années de catholicisme qui nous donnent cette idée de perfection. Je crois que l'homme la porte en lui. Je crois que l'homme porte en lui l'idée d'un niveau supérieur qui lui est promis. Là, promis n'est pas le mot, puisque c'est uniquement une chose ressentie. On a dit que c'était à travers l'image du Père que cette chose-là avait pu s'installer chez l'individu. Mais elle existe. Un homme veut être toujours reconnu. Le seul fait de vouloir être reconnu, parfois aimé, disons, c'est déjà l'idée qu'on peut se présenter avec une certaine perfection.
Il y a dans l'un de vos poèmes deux vers que je voudrais citer et vous renvoyer en miroir. Une aigre fleur de doute dans ma chair s'enracine. Alors vous avez été un homme d'engagement, de conviction, pourrait-on dire, mais j'ai le sentiment que ces deux vers-là nous disent que la place du doute a toujours été préservée chez vous.
Oui, je ne la ressentais pas comme quelque chose que je préservais. Je le ressentais comme une souffrance. Mais effectivement, c'est ce doute qui donne à l'individu le jeu. Le jeu qu'il y a entre lui et une certaine distance. Et aussi le fait de ne pas croire absolument qu'une chose est une vérité absolue. Ça, c'est ce que j'ai appris. Mais j'ai à côté de moi un pays, et je pense que c'est le propre des pays qui ont été prisonniers d'une armature religieuse trop pesante. Puisqu'on le trouve en Roumanie, on le retrouve en Espagne. On dit le nihilisme, mais ce n'est pas le nihilisme, c'est le cynisme. Le cynisme est une souffrance de l'individu qui sait qu'il n'a plus de vérité devant lui. Pourquoi ? Parce qu'il a donné le mot de vérité à quelque chose qui n'est pas la vérité. La vérité est une chose qui se présente à nous. Elle n'est jamais présente, je veux dire, qui apparaît à nous. Elle n'est pas une représentation. Elle est un état. Et cette recherche, évidemment, en politique, je peux dire qu'on vit une série de désenchantement, soit de ce qu'on espérait, soit d'une attitude, soit d'un échec, parfois de la société, parfois d'individus. Moi, j'ai été content le jour où j'ai pu pénétrer la psychologie. Et je me suis rendu compte que toute situation doit avoir son Sancho Panza, par exemple, à côté du Quichotte, qui est une étude psychologique de lui-même et des gens à qui il a affaire. Je ne crois pas que la psychologie soit la panacée. Je crois qu'elle est un moyen, à mon avis.
nuit apporte ses senteurs de menthe, la floraison des seigles réduit en poussière du soir. Je sens ton absence peser sur mon bras. J'ai le cœur plein d'odeurs et les lèvres inertes. Aucun de nous ne sait ce qu'offrira l'été. Si la fleur tiendra ses promesses, ma jeunesse s'accroche à ton image comme une mère étale la suite en sillage jusqu'à l'entrée du port. Tu m'aides à cimenter à tes transparences la dure réalité d'un moi incertain, fluide comme l'eau, aussi grave qu'elle. Cet instant nous lie où la soif de ma lèvre trouve en ta lèvre sa fraîcheur. Je suis un bec d'oiseau dans un joint de cerise. Taisons demain. Il est futur intègre et rien n'éclaire ce langage obscur des jours à venir. Peut-être par ton absence, privé de sourire, je confie au silence vide mon offrande, déchiffrant les secrets inscrits plus haut que moi.
Vous êtes attaché à la matérialité des choses, à leur substance, à leurs énigmes, mais je dirais que quelle que soit la chose dont vous parliez, une pierre ou un arbre par exemple, on a le sentiment qu'elle n'est jamais prisonnière de sa forme, mais qu'elle contient potentiellement le monde entier, ou qu'elle s'ouvre en tant que chose individuelle sur la totalité de la création.
Eh bien, je crois que là aussi, il faut le prendre dans le mot primitivisme, qui est mal vu. En général, il est extrêmement mal vu. On oublie que les sensations, les hommes les ont éprouvées dès le début. Je crois que quand on voit les artistes de Lascaux, et actuellement on remonte encore dans le temps, la sensibilité des artistes est peut-être la même à cette époque qu'elle l'est aujourd'hui. Simplement, la matière était plus opaque. Il y a un travail qui a été fait. Je pense que ce travail, nous le portons en nous. Mais, essentiellement, l'homme est en rapport avec cette matérialité du monde. Et je crois que je m'y suis trouvé devant parce que, par ma formation, j'ai eu 2 ans de collège. J'ai été fatigué, le docteur leur a dit à mes parents, vous devez le reprendre, sans ça il risque d'être tuberculeux. Je me suis trouvé prisonnier d'un pays où la question intellectuelle ne se posait pas. Et à travers la question intellectuelle, je veux dire justement cette curiosité. Une curiosité qui échappe au sensible, mais à l'instinctivité, à l'instinct, qui veut aller plus loin, qui veut une explication de cette chose-là. Et par conséquent, j'ai dû faire par moi-même, avec la lecture, mais sans jamais un mentor. On oublie la place que le mentor a dans l'explication des sciences, dans l'explication de la littérature. Ça vous remet en droit chemin, parfois avec très peu de choses. Moi, il m'a fallu parfois des expériences d'un an ou deux pour revenir sur une erreur ou une fausse interprétation.
Ce qui me frappe aussi dans vos poèmes, Jordi Pérez-Cerdà, c'est l'image que vous y donnez de l'homme que vous êtes. C'est la manière dont vous ressentez votre propre humanité, votre identité. Et ce que l'on peut en dire, de prime abord, c'est qu'il ne s'agit pas d'une identité triomphante. On est donc confronté à une fragilité de l'être, à une incertitude, ou plutôt, tout se passe comme si le sentiment de votre propre humanité n'existait pas en dehors du poème, préalablement au poème, et en quelque sorte, c'est la parole du poème qui vous constitue.
Oui, je crois que ça tient au fait justement de cette solitude. Un étudiant ou vivre dans une ville, il y a toujours 4 ou 5 personnes autour de vous qui forment le public, on peut dire, mais un public très proche. Moi, je ne l'ai pas eu. Je n'avais pas de réponse à mes... à mon interrogation poétique. Je n'ai jamais eu d'éléments qui viennent me trouver. Ma poésie l'est touchée, mais il ne savait pas pourquoi, puisque l'élément d'intellectualisation qui aurait pu nous donner une force sur l'écriture, sur la lecture, je parle des lecteurs, n'existait pas. Eux aussi devaient s'extraire d'un sentiment intérieur, et d'un sentiment très difficile, puisque chacun a son idée de la langue, son idée d'après ce qu'il a dans l'oreille de ses... Et un même mot peut être discuté par un voisin, par exemple, parce qu'il n'a pas le même mot pour exprimer la même chose. Donc cet échange, qui est l'échange normal de l'intellectualisme, je ne l'ai pas eu. Et je crois que c'est ce qui se ressent là. Par conséquent, tout ce qui apparaît comme nouveau est une curiosité ou une expérience que j'ai eue ou que j'ai dû dépasser. Et c'est pourquoi je suis tout entier dans mon poème. Et c'est peut-être ce qui explique aussi ce sentiment de me sentir fragile. Je crois que c'est l'écriture qui m'a donné les bases, si l'on peut dire, de vivre. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une vie pleinement d'homme, de père, avec les souffrances et les joies que ça peut porter. J'ai eu la chance de devoir me battre pour pouvoir également vivre dans mon métier, dans la société, souvent avec des coups. Mais par autre côté, je me disais, tu les recherches aussi, parce que tu as cherché des situations difficiles. Celle d'être communiste, elle était une, par exemple. Il ne faut pas se tromper.
Dans un poème intitulé « Potier », vous commencez par ces vers. « Je ramasse dans la boue 1000 éclairs de soleil avec l'eau de la pluie et je façonne mon visage. » Vous nous laissez ainsi entendre que le visage de l'homme en nous n'est pas donné un jour et une fois pour toutes, mais qu'il est en quelque sorte à façonner sans relâche.
Sans relâche, sans doute, mais pas toujours dans la même situation où le poème a pu être écrit. Un poème est toujours un cri d'un moment d'exception. Mais ces moments se répètent. Je crois qu'effectivement, ce qui se pose dans notre vie à nous, c'est que constamment l'homme à venir se présente à nous, mais pas d'une manière directe, en espérance, pas en espérance qui supposerait déjà une idée, non, mais en devenir, un état de devenir. Un des vers les plus grands de Jouve, qu'il m'a toujours tracassé, mais je craignais qu'il n'ait une connotation religieuse. Parce qu'il y a, ça y est, c'est Jouve. Moi, je suis un être religieux par moi-même. Mais j'ai fui toute théorisation de religion. J'ai compris, en tout cas, je n'ai pas senti qu'elle puisse me donner une satisfaction, quelles que soient les religions. Parce qu'elle touche à la philosophie également, les religions. Le vers de Jouve, c'est « Pitié pour le Dieu nu qui gîte dans nos ténèbres. » C'est une chose merveilleuse. Pitié parce que nous devons l'aider à sortir. Lui-même demande à sortir. Notre homme de demain n'est pas celui que je suis. Maintenant, le vôtre non plus. La vie est un perpétuel renouvellement.
Et ensuite libraire. Il semble à première vue que le métier de libraire soit plus en consonance avec votre œuvre de poète que le métier de boucher. C'est peut-être un paradoxe, mais je crois pour ma part qu'on pourrait soutenir le contraire. Et pour expliquer cela, je vous propose de faire un détour par la Chine. La culture chinoise nous a donné un livre, le Zhuangzi, qui a servi de référence majeure pour tous les artistes et théoriciens de l'art chinois. Or, on trouve dans ce livre un apologue qui met en scène un boucher. Alors je voudrais vous donner à entendre ce texte et que vous me fassiez ensuite part des réflexions qu'il vous inspire. Il sera question dans ce texte du Dao, c'est un mot chinois qui désigne le principe agissant de l'univers.
Le boucher Ding dépeçait un bœuf pour le duc Wenhui. La main posée dessus, le coinçant avec son épaule, ses pieds pressés au sol, il appuyait ses genoux contre lui et... chut, chut, les chairs s'ouvraient sous la lame avec un son parfait, s'harmonisant avec les danses du bosquet au mûrier et les vers de la musique de Yao. Le duc Wenhui s'exclama « Ah, oh, c'est tellement bien! Comment votre habileté arrive-t-elle à un tel niveau ?» Le boucher Ding reposa son couteau et lui répondit « Mon amour du Dao dépasse celui de l'habileté. Lorsque j'ai commencé à dépecer les bœufs, ce que je voyais, ce n'était que le bœuf en tant qu'entité globale. 3 ans plus tard, ce n'était plus le bœuf dans sa globalité que je voyais. Et désormais, je l'aborde avec mon esprit, je n'ai plus besoin du regard. » Mes sens s'arrêtent et j'agis avec mon esprit. Je me fie aux lois de l'univers et je m'insinue dans les interstices entre les tendons et les os. Je glisse la lame dans les jointures, je ne touche ni au vaisseau sanguin, ni à l'aponévrose et encore moins aux tendons. Un bon boucher change son couteau chaque année, car il lui sert à trancher. Un boucher ordinaire change son couteau chaque mois car il l'ébrèche sur les os. Quant à mon couteau, il a plus de 19 ans. Il a découpé des milliers de bœufs et sa lame est tranchante comme si elle venait d'être affûtée. En fait, les jointures et les os ont des interstices et la lame de mon couteau reste fine. Étant fine, elle se promène avec aisance dans les espaces vides et elle a toujours de la place. C'est pourquoi, après 19 ans, ma lame est comme neuve. Malgré cela, lorsque je rencontre une jointure, j'observe la difficulté avec une attention extrême. Par prudence, je me concentre. Mes mouvements sont plus lents, je manie le couteau avec une grande délicatesse et... oh, voilà que tout se délie, la chair s'entasse au sol comme une motte. Je me relève en tenant mon couteau dans la main. Je regarde de tous côtés, heureux. Puis je nettoie mon couteau et le range. Le duc Wenhui s'exclama. Magnifique! En écoutant vos paroles, j'ai appris à nourrir en moi le principe vital.
Ça fait plaisir d'entendre à un niveau philosophique un métier qui est un des plus, je ne dirais pas des plus bas, mais des moins compréhensibles, si l'on peut dire, par la sensibilité que nous avons aujourd'hui. Si on remonte dans le temps, il est certain que le sacrificateur, au début, était un prêtre. Et sinon, s'il faut en croire d'Étienne, par exemple, sur Apollon, Apollon lui-même, ayant le couteau dans les doigts, pas seulement pour faire son travail de sacrifice de la bête, qui avait remplacé le sacrifice de l'homme, ce qu'on oublie toujours, mais parce que, dans ce sacrifice, Apollon va jusqu'à la mort d'un homme, à l'assassinat d'un homme. Ça se passe à Delphes. Bon, c'est la nouvelle façon de lire maintenant, pas à travers les lignes, à travers les consonnes et les voyelles qui étaient déjà dans les textes de l'Iliade, de l'Odyssée et les textes anciens. C'est une chose merveilleuse que l'homme mette 2000 ans pour pouvoir lire autrement un texte. Ça fait penser au couteau aussi, c'est une façon de faire pénétrer entre les consonnes et entre les voyelles des distances, des interstices, et en fait des mondes.
Bon cantar.
Jordi Pérez Cerdá, une part non négligeable de votre activité a consisté à recueillir des chansons et des contes de la tradition populaire en Cerdagne. Quel esprit se dégage de ces créations populaires? Quelle en est l'originalité?
Je pense que ça m'est venu vers 48 et j'ai recueilli jusqu'en 62. Ensuite, je me suis arrêté, mais les dernières choses que j'avais recueillies en chansons, c'était déjà dans la plaine, et parfois même à Perpignan, grâce à ma femme. En fait, à des élèves de ma femme qui m'avaient procuré des personnes qui chantaient. J'ai recueilli des merveilles de sensibilité, de poésie, car justement la chanson, souvent, en tout cas en Cerdagne, était le nœud, si l'on peut dire, d'une oralité vierge. Hein. Un langage presque qui reviendrait de 400 ans avant, vers 1500, où la littérature était arrivée à un point où il y a eu une harmonie entre le langage et l'écriture qui est merveilleuse. Ça ne s'est plus retrouvé ensuite, en tout cas pour les Catalans, au 16e, 17e et 18e. Au 17e, notre écriture devient religieuse, donc didactique, parce qu'elle veut enseigner. Donc c'est surtout des chansons, à mon avis, qui viennent à partir du 16e, souvent. J'ai recueilli des merveilles au point de vue linguistique, au point de vue de la sensibilité poétique, et au point de vue d'une liberté d'aborder des mœurs. Par liberté des mœurs, je ne veux pas dire... Je veux dire simplement aborder tous les sujets, une façon de pouvoir aborder des sujets qui aujourd'hui restent parfois ambigus, difficiles à dire. La rivalité d'une mère et d'une fille, une fille qui défend devant son père son droit à avoir un amant, et qui dit à son père, si vous voulez, vous me punissez, mais ne punissez pas mon amant, ou alors je me retourne contre vous. C'est quand même des grandes choses. Moi, la chanson m'a permis d'étayer ma poésie d'une certaine manière. En tout cas, elle venait s'imbriquer dans ce que j'imaginais comme possibilité pour moi d'écrire de la poésie. J'ai retrouvé des airs de Sardane. Beaucoup de mes airs que j'ai trouvés peuvent être interprétés avec le rythme de la Sardane. Hein, mais d'une Sardane très courte, d'une Sardane qui n'avait pas pris la magnificence qu'ensuite l'instrumentation des diverses sonorités de la cobla ont pu lui donner à partir de la moitié du 19e. C'est ce qui s'est passé en général. On le retrouve avec les maîtres sonneurs de Georges Sand, que je trouve un livre magnifique. Hein, ça avait presque été codifié par la population.
Lionel Richard, la Sardane, ça vous inspire?
C'est difficile de ne pas voir la Sardane vraiment enracinée dans le peuple catalan. Bien sûr, les conditions sociales sautent, tout est harmonisé, mais c'est une danse tout de même de caractère paysan, je crois, villageoise en tout cas. Et bon, qu'elle ait pu être transposée, par exemple, devant la cathédrale de Barcelone, c'est également significatif. C'est-à-dire qu'elle est, à ce moment-là, passée à quelque chose de symbolique et qui était revendiqué, effectivement, depuis le 19e siècle, comme un aspect de la culture catalane indispensable.
La Sardane, bien entendu, n'est pas millénaire comme le croient les Catalans, mais il y a là une tradition qui a été reconstruite surtout au XIXe siècle, au moment de la Renaissance, justement au moment où, après là aussi des siècles de difficultés avec l'Espagne, peu à peu, la Catalogne, enfin le catalan, la littérature ont repris véritablement une très grande vitalité. Alors la Sardane, depuis, n'a jamais cessé, sauf sous le franquisme, bien entendu, d'être pratiquée. Mais dans les années 49-50 en France, disons du côté français, je me souviens qu'à Sayagouze, ou à Auxège, la Sardane était véritablement un rite très important et qu'il est redevenu également depuis un certain temps. Et je vois une sorte de coïncidence avec véritablement l'installation de la Generalitat de Catalogne. Il me semble qu'il y a des mouvements parallèles, non pas identiques, bien entendu. Car, et Jordi Perserda le sait très bien, les uns et les autres ne vivent pas le même destin. La Sardane est dansée très librement, un peu partout en Catalogne. Ce n'est pas du tout une danse folklorique, au mauvais sens du terme. On la danse parce qu'on l'aime. Et j'allais dire, même si on ne la danse pas très bien, peu importe que le voisin danse mieux que vous, moins bien que vous, il y a là une sorte de sentiment de l'égalité, une sorte de fraternité tacite. Lorsque les Catalans dansent, par exemple devant la cathédrale de Barcelone, et ailleurs aussi, même dans les villages, ils mettent leur sac au milieu. Ils forment ensuite la ronde et ils dansent très longtemps, alors que c'est une danse fatigante. C'est une danse qui exige une participation de tout le corps, mais une participation à la fois, disons, animée et harmonieuse, sans violence. Je pense qu'il y a un trait catalan, ce goût du partage, cette sorte de simplicité immédiate et d'égalité, revenons à ce mot, et qui caractérise, je dirais, l'œuvre de Jordi Perserda. Car Jordi Perserda est à la fois un homme du peuple et l'homme le plus universel qui soit.
Votre vitalité, Jordi Perserda, est restée extrême à 80 ans. Et je voudrais qu'en guise d'adieu, vous nous lisiez l'un de vos poèmes, justement intitulé « Vivre ».
Oui. Vivre. Cavalls sortien de l'alba. La bullena d'estany regant-los d'escuma. El dia fred de juny, amb son color de vidre i d'espasa, un sol que fitaven immòbils, sense entendre per què la llum els era hòstil. L'espasa els va dir, heu d'aprendre de viure. Chevaux sortant de l'aube, l'humidité de l'étang les asperge d'écume. Un jour froid de juin et son éclat de verre et d'épée. Un soleil qu'il fixait immobile sans comprendre pourquoi sa lumière leur était hostile. L'épée leur dit, il faut apprendre à vivre.
C'était Jordi Perserda, poète catalan, une émission de Jean-Baptiste Parra. Avec Jordi Perserda, Marie-Claire Zimmermann et Lionel Richard. Lecture, Miglen Mirtchev. Deux livres de poèmes de Jordi Perserda, Sens profond et Suite Sardane, traduits du catalan par André Vinas, ont été édités à Perpignan par les Publications de l'Olivier. Mixage Bernard Charon, Jean-Baptiste Etchepare Borde. Réalisation Viviane Noël. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 2001. Jordi Pérez-Cerda est mort le 11 septembre 2011 à Perpignan.